RFI.
Le magazine que vous écoutez est une rediffusion.
Grand reportage.
Le magazine de la rédaction nous emmène au Burkina Faso. Le pays est la proie depuis 2 ans environ d'attaques djihadistes à répétition dans le nord et l'est. Ce à quoi il faut ajouter les violences commises par des groupes armés non identifiés, une criminalité qui explose et des comportements des forces de défense et de sécurité pas toujours en accord avec le droit international. Un conflit qui monte en intensité et qui a déjà provoqué la fuite de plus de 600 000 personnes, des déplacés qui sont accueillis dans les villes, sur de petits sites, mais souvent aussi au sein de familles elles-mêmes déjà démunies. Le calvaire des déplacés du nord Burkina, c'est un grand reportage de Pierre Pinto.
Silgadji, Nagraogo, Lamdamol. À mesure que les semaines passent, la liste des villages martyrs du nord du Burkina s'allonge. Les attaques, incidents ou accrochages sont quasi quotidiens et jettent sur les routes des milliers et des milliers de Burkinabés qui tentent de gagner les villes alentours, Djibo, Dori, Barsalogo, là où, pensent-ils, ils trouveront accueil et peut-être assistance. Au Burkina, ils sont ainsi plus de 600 000 à avoir dû fuir leur maison. La région du centre-nord n'est pas épargnée. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi déjà trouvé refuge à Kaya et continuent d'arriver chaque jour dans cette petite ville qui comptait 70 000 habitants avant la crise. Aujourd'hui, personne ne sait trop combien. Les comptes officiels faisaient état de 45 000 déplacés à Kaya en décembre, probablement beaucoup plus aujourd'hui, chaque nouvelle attaque poussant ici des centaines de personnes supplémentaires. Kirsi a le visage creusé de la soixantaine. Il est arrivé à Kaya il y a 2 semaines. Il a fui son village, Rofenega, situé à 40 kilomètres.
Quand ils sont arrivés, ils sont entrés dans les cours et ont abattu les hommes qui commençaient à fuir. Il était environ 14 heures, ils étaient une vingtaine à moto. On ne sait pas qui étaient ces hommes, ils nous poursuivaient. On n'a pas eu le temps de s'arrêter pour savoir qui c'était. Ils ne sont pas venus nous menacer auparavant. Mais comme ils ont aussi attaqué les villages alentours, peut-être que c'était autour de notre village. Ils ont tué 16 personnes. Actuellement, le village est vide.
Ce mode opératoire revient très fréquemment dans les descriptions des déplacés. Comme dans celle de Rasman. Lui vient de Nagraogo, l'un des nombreux villages ravagés de la province du Sambatenga. Le 20 janvier, une colonne de motos fait irruption sur le marché et fait un carnage. Ce jour-là, Rasman est aux premières loges.
On était assis sur le bord de la route qui va à Dablo, une route qu'empruntent souvent les militaires. Ce jour-là, peu après le passage d'un convoi de l'armée, les terroristes sont arrivés et sont tombés sur nous. Ils portaient des treillis et on a d'abord cru qu'ils faisaient partie du convoi militaire qui venait de passer. Mais quand on s'est rendu compte que ce n'était pas l'armée, c'était trop tard. Ils n'ont pas dit un mot et ont ouvert le feu sur nous.
Amidou lui aussi vient de Nagraogo. Là-bas, il cultivait le cola qu'il vendait sur son petit étal. Il raconte la même scène d'horreur.
J'étais au marché. Les forces de défense et de sécurité sont passées une première fois avec leur véhicule. 20 minutes après, un groupe de motos est arrivé et a encerclé le marché. Nous, on pensait que c'était encore des militaires qui passaient. Mais c'est là qu'ils ont ouvert le feu. Tout le monde courait pour fuir ou s'abriter dans le marché. Ils ont incendié les étals et tiré sur tout ce qui bougeait. Ils tiraient. Ensuite, ils ont sillonné le village et abattu tous ceux qu'ils trouvaient. Ça a duré plus d'une heure. Moi, je suis resté caché. Ils ne m'ont pas trouvé. Ce n'est qu'après leur départ que je me suis relevé.
Ce jour-là, à Nagraogo, 32 personnes sont tuées. Amidou et des dizaines d'autres habitants fuient pour la ville la plus proche, Barsalogo. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde, alors Amidou et les siens décident de poursuivre jusqu'à Kaya, à 45 km au sud. À Kaya, Amidou a de la famille, un cousin qu'il ne connaît pas, Moumini, qui a accepté de les accueillir sur sa concession à la sortie nord de la ville.
Oui, c'est là.
On fait partie de la même famille, mais notre famille était séparée depuis 60 ans. Une partie vit aux alentours de Barsalogo. Mais à cause des attaques, nos cousins de là-bas sont venus nous rejoindre ici, et on les a accueillis dans notre maison. Mais même si c'était nos pères qui se connaissaient, on n'a pas eu peur de les accueillir, parce qu'on est une seule et même grande famille. On fait de la culture maraîchère et de l'élevage. Grâce à ça, on arrive à acheter de la nourriture. Mais aujourd'hui, les terres ne suffisent plus. On va voir quand la saison reprendra si on peut s'en sortir. En tout cas, on a le même grand-père. On est obligé de vivre ensemble malgré les difficultés. On va rester ensemble, même si ça dure. Les déplacés qui arrivent ici et qui ne connaissent personne, ceux-là vont sur des sites. Mais ceux qui ont des parents vont chez leurs parents. Mais on a des voisins qui ont accueilli des déplacés, qui ne font même pas partie de leur famille. Ils les ont accueillis, comme ça.
Aïssata a laissé toute sa vie derrière elle. Elle a fui Arbinda il y a plusieurs mois. Elle et les siens ont débarqué à Kaya à 70. Ils ne connaissaient personne. Les autorités leur ont octroyé une maison dans un ancien lotissement en construction, transformé en site de déplacés. Mais malgré cela, la maison est trop petite pour tous. Certains ont donc dû trouver des logements à louer pour dormir la nuit. Et la vie en ville coûte cher.
J'ai des fils qui sont partis travailler sur des sites d'orpaillage dans la région. Ils restent là-bas quelque temps, ils reviennent voir leurs femmes, puis ils repartent. Il faut gagner de l'argent. Même l'eau, on la paye ici. Mais les femmes, elles restent assises ici toute la journée. Elles n'ont rien à faire. La vie à Kaya ne me plaît pas, mais ne me déplaît pas non plus. Là où on vivait avant, on travaillait. Les femmes vendaient au marché, les maris avaient des travaux à faire. Mais ici, il n'y a rien à faire. Les femmes sont assises à la maison, les hommes aussi. Ceux qui sont sur les sites d'orpaillage peuvent ramener quelque chose. Mais sinon, même le bois ici, il faut le payer. Et on ne peut pas l'acheter parce qu'on n'a rien à faire. Mais grâce à Dieu, on a un point d'eau qui a été installé ici et on s'en sert tous.
Parfois pourtant, chez les déplacés de Kaya, les femmes travaillent. Elles vont par exemple ramasser les graviers dans la colline pour les revendre à des chantiers pour quelques centaines de francs. Salah est toute jeune. Elle se bat pour trouver de quoi nourrir sa fille de 2 ans, diagnostiquée malnutrie peu après son arrivée il y a 5 mois.
On a fui Arbinda il y a 6 mois dans une charrette tirée par notre âne. On a arrivé à Foubé. À Foubé, on a commencé à cultiver, mais on a dû fuir à nouveau avant de récolter.
Aujourd'hui, la fille de Salah va mieux. Elle a été prise en charge par le centre de santé du secteur 6, un dispensaire délabré, soutenu par plusieurs ONG et agences onusiennes. Issa Wadogo en est l'infirmier chef de poste.
Depuis janvier 2019, on a connu une hausse du nombre de cas de malnutrie, que ce soit sévère ou modérée. C'est les enfants et c'est les femmes enceintes et allaitantes. En 2018, pour les enfants malnutris, on a enregistré 319. Et en fin 2019, on a enregistré 840. Donc l'augmentation, c'est plus de 100% des demi. C'est conjoncturel, le fait que les gens n'ont pas pu travailler les champs pour avoir la nourriture. En plus, l'insécurité les a fait fuir. Donc la détresse alimentaire là, est partout dans la famille. C'est toute la famille là, qui est concernée. Mais les plus grands là, supportent le fait qu'ils sortent, ils peuvent gagner des casse-croûtes quelque part. Mais les enfants, là, ils souffrent. Donc tous ceux qui ont fait le déplacement depuis le Sahel jusqu'à ici, là, ils ont ces problèmes-là parce qu'il n'y a pas à manger.
Aujourd'hui, au Burkina, 2 200 000 personnes ont un besoin humanitaire, selon l'ONU. 1 200 000 n'ont pas accès aux soins de santé ou à l'éducation. 900 000 déplacés ou familles hautes sont particulièrement vulnérables. Parmi les centaines de déplacés qui arrivent à Kaya chaque jour, de nombreux enfants, souvent traumatisés. Avant de les scolariser dans des écoles de la place, ils peuvent passer par des espaces temporaires d'apprentissage, mis en place par l'UNICEF, l'ONG Plan International et des associations locales. Ces espaces constituent une sorte de sas de décompression pour ces enfants. Anata Confiné est animatrice.
Il y a des enfants qui sont arrivés traumatisés. Parce qu'il y a des enfants, le bruit d'une moto les fait peur. Le fait de taper les bombes les fait peur. À l'arrivée même, il y a des enfants qui ont peur de leurs camarades. Ils ne peuvent pas s'associer. Par exemple, s'il y a une moto qui passe à côté, les enfants ont peur. Mais une semaine après, ils nous disent qu'ils avaient peur des motos parce que ce sont les motos qui sont venues tuer leurs parents. Mais maintenant, ils ont compris que ce n'est pas toutes les motos qui font du mal. Avec le temps, vraiment, une semaine, en tout cas, les traumatismes sont partis. Ils arrivent même à expliquer comment ils ont fait pour arriver, pourquoi ils sont venus et comment est maintenant leur vie. Donc nous, on est contents en tout cas. Les enfants sont contents, les parents viennent exprimer leur joie. Parce que les enfants, ils ne font plus de cauchemars à la maison et ils acceptent les camarades.
Ici, frères et sœurs ne sont pas séparés. Tout est fait pour rassurer et tenter d'exorciser les drames vécus par ces enfants. Judicaël Damiba est psychologue.
Nous allons constater aussi, sur certains dessins, des images d'armes. Cela témoigne de ce qu'ils ont vu. Et à l'issue de ces dessins, nous voyons quel type d'approche envisager pour essayer de comprendre en profondeur s'il y a des indices de souffrance et voir maintenant dans quel sens on peut engager une psychothérapie.
12 plus 11 égale 23. 10 plus 3 égale 23.
On fait des chants du tiroir, les danses modernes et les danses traditionnelles. On fait des œufs de société, des œufs de construction. On fait l'éducation informelle en même temps, la lecture, le calcul, le dessin et le sport.
L'espace temporaire d'apprentissage n'est pas une école, mais prépare au retour à l'école formelle en attendant que ces établissements soient en mesure de faire face à l'afflux de nouveaux élèves. Pour cela, l'UNICEF et Plan appuient aussi un programme de construction de classes supplémentaires dans les nombreuses écoles de Kaya. Gilbert Mouissa, spécialiste éducation d'urgence à l'UNICEF.
On a commencé ce partenariat avec Plan International pour augmenter la capacité d'accueil dans ces écoles hautes. Parce que les enfants déplacés ont droit à l'éducation, ils doivent aller à l'école. Et on n'a pas besoin de créer de nouvelles écoles en fait. Ces enfants doivent rejoindre les écoles résidentes où nous on doit augmenter la capacité d'accueil. Concrètement, pour expliquer, on a eu la rentrée scolaire en octobre. Il y avait beaucoup d'enfants qui ont exprimé le besoin d'aller à l'école. Mais comme on s'est buté à un problème de classe pour les accueillir, on a dû créer ce cadre d'apprentissage transitoire en attendant qu'on finisse les travaux de réhabilitation, de construction. Parce qu'en même temps, il y avait des salles de classe qui étaient occupées par les ménages déplacés. Donc il fallait d'abord reloger ces familles déplacées, réhabiliter ces salles de classe, ajouter de nouvelles salles de classe. La logique, c'est la même, c'est vraiment de garder ces espaces temporaires pour gérer encore une fois le nouveau flux et progressivement reverser les enfants dans le formel autant que possible.
Dans cette école aux classes déjà surchargées et dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurité, les salles supplémentaires en dur auront permis de doubler la capacité d'accueil, explique le directeur.
Ces classes supplémentaires sont des classes qui sont venues à résorber le flux d'effectifs. Et ces salles de classe ont été réalisées en un temps record, un mois maximum, pour pouvoir pallier rapidement à la situation.
Depuis 2 ans, les écoles et les enseignants sont régulièrement pris pour cible par les djihadistes qui ont déclaré la guerre à l'enseignement en français. En avril dernier, ils ont lancé un message clair en abattant froidement 5 enseignants devant leurs élèves dans une cour d'école du centre-est du pays. Un drame que chaque enseignant garde en mémoire. Des enseignants qui continuent malgré tout de travailler, explique ce fonctionnaire de l'éducation, qui lui aussi tient à garder l'anonymat.
L'état d'esprit, on n'est pas totalement différent de celui des autres enseignants, des autres localités. Il y a une certaine résilience qu'ils ont pu développer. Et puis le travail se passe assez normalement.
Au Burkina, ces attaques quasi quotidiennes et les déplacements de population qu'elles provoquent aggravent les tensions de jour en jour. Le sentiment de méfiance entre communautés, Mossi et Peul en particulier, s'exacerbe à mesure que le temps passe.
Ils sont venus un vendredi, on était assis. Ils ont tiré sur nous. Ils ont assassiné 5 personnes et sont repartis. Ils étaient masqués. Ils sont venus, ils ont tué, ils sont repartis. On ne sait même pas qui étaient ces gens. mais ils parlaient la langue Peul.
Le fait que parfois les assaillants parlent la langue Peul suffit pour certains à assimiler tous les Peuls aux djihadistes, ou pour le moins à les soupçonner de complicité avec les assaillants, qui ciblent souvent en particulier les Mossi ou d'autres communautés. Si parmi les déplacés, beaucoup se refusent pour autant à désigner les Peuls comme leurs ennemis, certains estiment que la cohésion est définitivement brisée et franchissent ce pas sémantique.
C'est les Peuls, c'est personne d'autre. Ce sont eux l'ennemi maintenant. Avant, on vivait ensemble, il n'y avait jamais d'histoire. Je ne sais pas si on se reverra, mais là, c'est fini.
Cette dégradation du tissu social suscite l'inquiétude de bon nombre d'observateurs ou d'organisations de la société civile au Burkina. Daouda Diallo, porte-parole du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés.
C'est la diversité des couleurs d'un tapis qui fait la beauté d'un tapis. Notre tissu social est beaucoup menacé et beaucoup fragilisé. Ça, c'est, il faut le dire clairement. On observe avec un grand mécontentement, avec un grand désarroi, cette situation de méfiance mutuelle entre les communautés. Aujourd'hui, c'est clair, il y a une grande fissure. Il y a un grand déficit de confiance, de telle sorte que même les membres d'une même famille, je ne parle pas de Peul seulement, les membres d'une même famille, vous partez au centre nord, vous pénétrez une famille Mossi, vous allez trouver que même les membres de cette famille se méfient l'un de l'autre. Parce que chacun pense que soit son père, ou c'est son voisin, ou c'est son ami, ou c'est son propre frère qui est dedans, dans le terrorisme. Donc aujourd'hui, le climat de méfiance vis-à-vis de son prochain s'est renforcé au Burkina. Les terroristes cherchent à opposer les communautés ou les voisins les unes contre les autres. C'est ça, c'est ce que les terroristes cherchent.
Pour autant, cette dislocation du tissu social burkinabé n'est pas une fatalité. À quelques kilomètres au nord de Ouagadougou, la capitale, dans le village de Pazani, vivent depuis plusieurs mois des centaines de déplacés venus du Soum. Tous sont Mossi. Ils ont fui leur village, Silgadji, après que les djihadistes aient laissé 39 cadavres derrière eux lors d'une attaque en juillet dernier. Ils ont été accueillis par des Peuls du village avec qui ils vivent depuis en bonne intelligence. Ali Tapsoba est l'un de ces déplacés.
Ici, c'est un village Peul, c'est un quartier de Peul, mais on se croit très bien. Il n'y a pas eu cette méfiance là comme l'endroit où nous nous quittons. Sinon ici, tous les ethnies se croient.
Ici, les Peuls du village ont accueilli à bras ouverts ces déplacés. D'abord dans des écoles, puis dans des bâtisses en construction. Sous son arbre, face à la petite mosquée, le vieux Boukari Diallo, adjoint du chef du village, ne se sent absolument pas concerné par cette méfiance croissante entre communautés dans certaines zones du pays.
Mais ça, c'est l'appel des noms, c'est pas ici. C'est les appels des noms. Ici, là, nous, c'est la même chose. S'il n'y a pas que Peul, il n'y a pas que Mossi, il n'y a pas que Kourmankima, il n'y a pas que Boulan, tous les mêmes sources. C'est de notre famille, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de discuter, il n'y a pas de temps en temps. Même si c'est longtemps, c'est la confiance.
Le calvaire des déplacés du Nord Burkina, un grand reportage de Pierre Pinto, réalisation Pierre Chaffangeon.
Ayakika mama.